très chers amis et joyeux contribuables, administration, institution, association, nous vous aidons à les rendre plus abordables, pour mieux comprendre vos droits et obligations. C'est votre vie pratique sur Radio B. Être parent d'un enfant qui se porte bien n'est pas toujours une affaire simple. Alors quand survient une mauvaise chute, une fièvre anormale ou bien encore un souci de santé qui tarde à disparaître, l'inquiétude augmente. Que dire de l'anxiété des parents qui doivent faire face aux problèmes de santé de leurs enfants que la médecine, pour une raison ou pour une autre, ne résout pas? Ces mêmes parents mènent parfois un combat acharné contre la maladie de leurs enfants et font preuve de ressources qu'ils ne soupçonnaient même pas. Certains d'entre eux sont qualifiés de parents experts. Ils ne sont pas arrivés à ce stade du jour au lendemain et ont acquis cette dénomination après souvent bien des années. Voilà ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Sophie.
Bonjour Dominique et bonjour à tous.
Votre expérience va permettre d'éclairer auditrices et auditeurs sur ce sujet difficile et vous avez choisi une chanson pour l'illustrer. Nous l'écoutons tout de suite et nous revenons pour discuter.
Lou, je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne blanche et le braille. Lou, je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est, je vous l'avoue, que dans mon trou je traîne beaucoup. Oui, j'ai peur du malheur, torpeur d'un monde en fureur. La gestion de mes émotions, à chaque tension je fais le hérisson. Je sais, la vie est relou, elle nous fout des coups de bonbons, nous entaille, dresse des murailles, nos rêves s'écaillent, quelle bataille. Je lutte contre mes tics, mes tocs et toutes leurs cliques. Certains me disent autiste, mais j'y peux rien si j'aime tant la musique. Je kiffe les harmoniques, les notes de mélodie que quelque part je suis un artiste. La zik et moi c'est magique. Moi mais censé louer, toucher qu'on vous interdit, pas d'odorat, un goût réduit, ça me donne quand même souvent bien du souci. Ainsi et faites ma vie, je ris, je pleure, je crie, parfois je manque de courage quand il faut tourner la page. Papa, maman me disent que personne fait à sa guise, que l'amour rend bien plus fort. C'est vrai que la tendresse c'est ce que j'adore. J'ai besoin de gros câlins, qu'on m'aide, qu'on me tende la main, que l'on rit, c'est ce que je kiffe pour vivre dans le positif. Lou, je m'appelle Lou, dites-moi, ne suis-je pas comme vous? À chacun ses périls, pour chacun la vie est difficile. On a tous nos souffrances, nos peurs, nos espérances, nos fractures et nos blessures, et notre peur du futur. Vous, je m'adresse à vous, dites-moi, est-ce donc si fou de se dire qu'il y a toujours pire, qu'il faut sourire même au dernier soupir. Vous, je m'adresse à vous, il faut tenir debout et sans fin se tendre la main, oser se faire des câlins. Loup, je m'appelle Loup, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne et le braille. Loup, je m'appelle Loup, Loup, c'est moi, c'est vous.
Retour avec Sophie, devenue parente experte face aux problèmes de santé de ses enfants. Avant tout, Sophie, quelle définition pouvez-vous donner à cette notion de parente experte ?
Un parent expert, c'est un parent qui a un ou plusieurs enfants qui a une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une maladie qui dure dans la durée. Et dans le cas de mes enfants, donc mes deux enfants sont concernés, c'était d'une part le diabète, donc une maladie qui avec un risque important, y compris un risque vital, et d'autre part une maladie psychique, donc que je détaillerai un peu après, donc pareil, dans la durée, qui pour le coup ne se guérit pas.
Est-ce qu'il existe des formations pour les parents experts ?
Alors, c'est une formation par l'expérience. Ensuite, il existe, et c'est de plus en plus développé en France, des formations pour les aidants. Il y a des éducations thérapeutiques du patient ou des éducations thérapeutiques qui s'adressent à la famille, qui sont dispensées dans des centres hospitaliers. Donc, nous avons pu en bénéficier pour notre enfant diabétique, mais également pour notre autre enfant qui a des troubles du spectre de l'autisme.
Donc, si je traduis bien, je comprends qu'il existe des structures susceptibles d'apporter une aide aux parents experts.
Oui, tout à fait. Donc là, j'ai parlé des formations plus institutionnelles, mais il y a beaucoup d'aides entre parents concernés, donc dans des cadres associatifs, et puis après des gens qu'on peut rencontrer à l'hôpital ou lors des consultations, ou tout simplement à l'école, avec qui on partage donc, notre expérience et ce qui permet de voir le côté très pratique de la maladie.
Donc on acquiert cette expérience au fil du temps, à travers des formations, à travers des échanges avec des associations ou avec d'autres parents. Ces compétences, elles deviennent tout autant médicales que sociales ?
Exactement, médicales, parce que pour bien comprendre et aider nos enfants, on a toujours besoin d'un background important au niveau médical. Donc, pour avoir les bons gestes quand il s'agit de problèmes très importants. Après, les parents peuvent même devenir, donc, quand on arrive au statut de parent expert, qui n'est pas un statut reconnu, hein, mais qui est de fait, suite à une expérience, on a acquis des connaissances médicales sur la pathologie, mais également sur la pathologie dans le fonctionnement global de l'enfant. Donc, je m'explique. Par exemple, mon fils qui est autiste, il n'a pas que de l'autisme. Donc, lui, il a une particularité, il a un syndrome d'Asperger, qui est un autisme sans déficience intellectuelle et sans retard de langage, qui a été diagnostiqué extrêmement tard, vers 18 ans. Mais il n'a pas que l'autisme, donc il a eu une dépression sévère, des troubles anxieux, et donc il a fallu comprendre quel était l'impact de l'autisme sur son fonctionnement, l'impact de la dépression également, et un mélange de tout ça fait que ça n'était pas toujours évident. Et au niveau médical aussi, quand on rencontre des experts médicaux d'une pathologie, souvent ils ont un peu de mal avec d'autres pathologies qui peuvent être présentées en même temps sur un même patient. C'est là où les choses se compliquent et où il faut vraiment, où les parents doivent devenir experts parce qu'en face, il n'y a pas forcément de professionnels qui arrivent à nous aider dans le cas précis de notre enfant.
Je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est quel accueil réserve le milieu médical aux parents experts ? Parce que vous avez acquis en fin de compte une compétence qui vous permet de discuter, pas autant qu'un médecin, mais qui vous permet de discuter à un certain niveau.
Alors, c'est très, très variable. La difficulté, c'est que le parent doit se mettre au diapason du domaine médical. Donc, là comme ailleurs, on peut avoir un accueil très très chaleureux, bienveillant et de la part du milieu médical, mais nous avons dans notre parcours rencontré le meilleur comme le pire, en particulier pour notre enfant autiste. Donc avant qu'il soit diagnostiqué, j'ai eu beaucoup de mal à discuter avec les psychiatres parce qu'il y avait eu une erreur diagnostique, il avait été diagnostiqué schizophrène. Et donc, quand j'ai posé des questions à la psychiatre qui avait posé le diagnostic, et elle l'a très mal pris parce qu'elle a cru que je remettais en question ses compétences. Alors que moi, je ne comprenais pas le diagnostic et je voulais, après m'être beaucoup renseignée sur la schizophrénie, je ne retrouvais pas du tout les symptômes de schizophrénie de mon fils. Et chez mon fils, et donc la communication avec cette psychiatre a été très difficile. À l'opposé, après, quand on a rencontré des personnes qui connaissaient vraiment bien la pathologie, et quand on parlait de cette pathologie, que ce soit le diabète ou l'autisme, alors là, les choses étaient beaucoup plus faciles. Parce qu'on avait effectivement acquis une certaine des connaissances et on comprenait les médecins, et les médecins nous comprenaient quand on expliquait les problèmes que nous pouvions rencontrer.
Des soucis ou des réussites avec le domaine médical et avec les organismes sociaux.
Les organismes sociaux, nous avons eu la chance de ne pas avoir d'informations préoccupantes ou de signalement au procureur de la République. Enfin, les organismes sociaux peuvent intervenir dans la mesure où un professionnel, que ce soit du milieu de la santé ou du milieu scolaire, fait une information préoccupante au niveau du département ou un signalement au procureur de la République quand l'enfant est considéré comme étant en danger. Donc nous avons été menacés de ça au niveau de la psychiatrie parce que nous n'étions pas d'accord avec les soins. Et donc, le psychiatre nous avait dit qu'il fallait absolument que notre fils se fasse soigner. Or, à l'époque, donc, il était toujours diagnostiqué schizophrène. On lui donnait des antipsychotiques. Et les antipsychotiques avaient un effet délétère sur mon fils. Il n'arrivait plus à dormir. Il était devenu agressif. Et il a même fait une tentative de suicide. Donc, à ce moment-là, on a remis en question les soins qui était réalisé à l'hôpital. Donc après quoi, le psychiatre nous a menacé effectivement de faire un signalement. On y a échappé parce qu'on est allé en libéral et ensuite on a conduit donc l'évaluation diagnostique dans un centre ressources autisme qui a confirmé que notre fils n'était pas schizophrène et a mis en évidence les troubles du spectre de l'autisme. Donc le parcours au niveau du social, ça a été compliqué. Et de la même façon pour notre autre enfant, à la même période d'ailleurs, on a failli avoir un signalement parce que notre fils adolescent et diabétique refusait de se tester. Donc il ne faisait pas les 5 tests quotidiens, les tests de glycémie. Et donc le médecin qui était en charge du suivi de son dossier trouvait que ce n'était pas normal. Et donc, on savait très bien par le milieu associatif qu'elle avait déjà fait des signalements pour des adolescents qui ne suivaient plus le traitement. Donc nous, c'est pareil, on est passé dans le libéral et là, une super, super endocrinologue qui nous a énormément aidés.
Comment se déroule la vie au quotidien, en fait, quand on est confronté à ce genre de problème?
Alors, pour la vie au quotidien, il y a des hauts et des bas. Donc, quand par exemple le diabète est bien réglé, tout se passe très, très bien. Et donc, il y a... donc mon fils a souvent une bonne observance du traitement. Maintenant, il est sous pompe à insuline, il a des capteurs, donc tout va bien. Par contre, parfois, pour des raisons qui lui sont propres, c'est par exemple quand il fait beaucoup de sport et quand il anticipe mal son alimentation ou ses efforts, il peut être en grosse hypoglycémie. Et donc faire un malaise. Donc il nous a fait 2 comas diabétiques. Donc là, il faut gérer. Donc pour gérer, soit on a la chance d'avoir sous la main des médecins qui peuvent nous aider. Donc moi, j'ai fait une fois appel aux pompiers. Donc là, les services d'urgence ont été vraiment très très bien. Ils nous ont beaucoup aidés. beaucoup dans l'accompagnement aussi, parce que bon, bah, pour un parent, voir son enfant faire un coma diabétique, c'est très compliqué. Et donc, quand on a des professionnels compétents, qui on peut avoir confiance, tout se passe très très bien. Et à l'inverse, on a dû gérer une situation où notre fils était en coma diabétique, on était en voyage aux USA. Alors là, on s'est débrouillé. C'est pour ça aussi qu'il faut forcément, à un moment donné, avoir suffisamment de connaissances pour gérer l'urgence, pour gérer des événements imprévus.
Et dans toutes ces épreuves, comment les parents, ou vous en l'occurrence, pouvez rester positif face à tout ça?
Alors, dans l'urgence, on pense juste à régler l'urgence. Notre esprit est complètement accaparé par tout ça. Pour arriver à tout ça, pour arriver à une certaine efficience, efficacité face aux gestes d'urgence qu'on a parfois à faire, ben, il faut s'entraîner, ou en tout cas, il faut s'être préparé à la situation. Et d'une part, et d'autre part, ben, ce sont des maladies sur le long terme. Et pour tenir longtemps, il faut être soi-même costaud, il faut être reposé, il faut être bien dans sa peau, bien dans son couple si possible, bien dans son travail. Donc moi, j'ai dû arrêter de travailler pour m'occuper de mon fils quand il a reçu le diagnostic de schizophrénie. Donc ça a été un choix de vie. Mais on a donc fait le choix d'accompagner notre enfant. Et donc, sur la durée, il faut faire en sorte qu'on soit capable de le faire sur la durée. C'est ça peut-être le plus dur, parce qu'on est toujours capable de le faire quand ça dure une journée, 2 jours, mais se dire qu'on en a pour des années et des années, ça, c'est une étape différente. Et oui, la vie, toute notre vie est colorée par la maladie de nos enfants.
Si je voulais ajouter une note un petit peu positive, je vous demanderais quelle est votre plus belle réussite face aux difficultés rencontrées avec vos deux enfants?
Alors, notre plus belle réussite, c'est d'avoir renforcé, enfin, notre cellule familiale en est ressortie beaucoup plus forte. On a un regard sur la vie qui a beaucoup changé. On n'est plus embêté par des broutilles. On vit, moi j'apprécie beaucoup toutes les belles choses que la vie nous offre. Moi je suis très fière aussi parce que mes enfants vont bien et ils sont épanouis, tous les deux.
C'est le principal.
Exactement, c'est vraiment donc là ce qui me drivait, c'était vraiment 2 choses, que mes enfants puissent être autonomes et qu'ils aient tous les deux une belle qualité de vie, quelle que soit leur pathologie. Et ça, c'est ce qu'on appelle en psychiatrie le rétablissement, c'est-à-dire que oui, on peut avoir des maladies, oui, elles peuvent durer toute la vie, mais il faut apprendre à vivre avec et à faire avec. Donc oui, mes enfants peuvent être considérés comme ayant un handicap au sens de la loi de 2005. Oui, ça a une incidence forte sur leur vie, sur leur scolarité, peut-être sur leur avenir, mais ils vont, j'espère, arriver à trouver ce qui leur convient, qui les rend heureux. Donc, par exemple, mon fils autiste, je suis très fière parce qu'il est, je suis très fière de lui. Il est en école d'ingénieur dans un domaine qui le passionne. Et il est à sa place dans ce milieu-là, qui l'a accepté avec sa différence. Ils ont parié sur lui. Donc, il a eu des aménagements scolaires, mais de moins en moins. Et donc là, actuellement, il est en stage. Il profite de sa vie, de la vie qu'il a choisie.
C'est sur cette note d'espoir que nous allons terminer à regret cet entretien. Je rappelle que vous êtes parente experte et notre prochaine chronique traitera de l'administration au sens large du terme. Savez-vous que sur l'Internet, il existe une porte d'entrée unique qui nous aide pour nos différentes démarches administratives? Mais oui, et nous en discuterons directement avec la responsable de l'information administrative du site internet servicepublic.fr. À bientôt sur Radio B.
Je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous, si ce n'est que où que j'aille, je n'ai que mon piano, ma canne blanche et le braille. Lou, je m'appelle Lou, voyez, je suis fait comme vous.